Paris, quelque chose comme 500 appels d'offres. C'est d'une envergure peu imaginable. Et rendu à un chiffre comme ça, pendant longtemps, on disait, bon, c'est de la paresse peut-être d'un ou deux fonctionnaires, c'est une espèce de nonchalance du côté du gouvernement. Mais là, on arrive à des chiffres, $1 milliard. Comment le gouvernement peut-il ne pas être en cause et être à l'abri de toute incrimination dans ce dossier-là lorsqu'on a une somme aussi faramineuse que $1 milliard sortie des poches des gens qui ont transité par des individus qui en ont gardé grosso modo le quart avant de sous-traiter à plein d'autres entreprises dont on ignore presque tout?
Je vous fais remarquer aussi en terminant, M. Blanchet, que parallèlement, on a embauché 109 000 nouveaux fonctionnaires depuis l'arrivée de ce gouvernement-là. On peut penser qu'il y en a une couple qui aurait pu travailler là-dessus pour, je ne veux pas dire gratuit, mais pour le prix de leur salaire.
Oh, mais c'est fascinant. On a un gouvernement qui n'est pas capable de faire son travail, les cas sont nombreux, qui veut rentrer dans les compétences et les juridictions du Québec et des provinces comme s'il serait capable d'ajouter ça à la job qu'il est déjà pas capable de faire et qui, en plus, engage 109 000 fonctionnaires et sous-traite une part significative de ce que sont ses mandats, tantôt à McKinsey en matière d'immigration, on voit les engagements catastrophiques que ça donne, tantôt à des petits intermédiaires qui se prendront des sommes incroyables dans leur propre poche pour distribuer ça à d'autres mondes. C'est une gestion totalement inadmissible. Ce gouvernement-là ne peut pas être laissé sans surveillance. Et on peut quand même noter que le stratagème remonte à 2011, avant même l'arrivée des libéraux.
Merci, M. Blanchet. Bonne journée.
Un plaisir.
Salut, c'était Yves-François Blanchet, le chef du Bloc québécois.
CFX 93, son équipe et le studio McDonald, un trio de champions. CFX FM 93, le Québec maintenant.
Diane Lemieux est là pour sa deuxième semaine de chronique. Bonjour, madame.
Bonjour, monsieur.
On va parler de Québec solidaire. On sait qu'il y a une crise, il y a des déchirements internes, il y a des clans qui sont en train de se former. Il y a eu des lettres qui dénonçaient l'appel au pragmatisme de Gabriel Nadeau-Dubois. Et là, ben, il y a une autre lettre qui appuie la démarche de pragmatisme de monsieur Nadeau-Dubois. Qu'est-ce qui te frappe dans cette crise-là, Diane?
Ben, ça m'a fait penser au Parti québécois qui avait pas mal de talent pour les crises.
Oui, vrai.
Le beau risque de René Lévesque en 84, lorsque Mulroney lui a tendu la main en souhaitant que le Québec puisse signer la Constitution dans l'honneur et l'enthousiasme. Ce beau risque-là, qui était le pari de M. Lévesque, ben, a provoqué des désaccords au point où des ministres quand même poids lourds, Jacques Parizeau, Louis Arel, Denis Lazur, Camille Lorrain ont démissionné. Alors, je vois certaines similitudes. Évidemment, on ne connaît pas encore le dénouement de cette crise, comme on dit, on verra. Mais là, je me suis attardée ces derniers jours. En fait, je me suis demandé si j'étais dans sa peau, là. J'ai fait de la politique.
Moi, AGMD.
Oui, tout à fait. L'aspect humain de crise comme ça. Bon, puis je dévoile mes intérêts, là. Je le connais pas.
Alors, tu es en train de défendre un
pas chum. Pas tout. J'essaie de me mettre un peu dans sa peau. Puis, je pense pas qu'on se trompe en disant que c'est certainement un homme engagé, qui a adhéré certainement à Québec solidaire avec des bonnes intentions. C'était en continuité aussi à la lutte étudiante de 2012, dont il a été un leader quand même assez important. Que Québec solidaire incarnait ses valeurs. Donc, ça doit être terrible ce qu'il vit et ce qu'il va vivre aussi durant les prochaines semaines, voire les prochains mois. Il a lancé cette discussion sur le pragmatisme, sur le fait que le parti devait aspirer à gouverner. Il a donc des compagnons et des compagnes de route, des gens qu'il connaît, avec qui il a travaillé, il a mené des batailles avec ces personnes-là, qui expriment quand même leur désaccord avec une certaine force. Il va perdre des amis, même s'il aura fait des efforts incroyables pour essayer de les rallier. Il y a des risques de départ, de peut-être menaces de nouveaux partis. Il sera probablement l'objet de quelques manœuvres de sabotage politique. Il va négliger sa vie de famille. Il va scraper des événements familiaux parce qu'il faut qu'il parle à tout le monde. Il faut qu'il soit présent. Il devra se déplacer probablement un peu plus souvent, un peu partout au Québec. Et il risque de se retrouver avec un dilemme, un méchant dilemme. Dans quel parti il va se retrouver? Dans quel État Québec se sera après cette crise. Et c'est souffrant d'être un leader en politique. On a des blessures d'orgueil, une mauvaise déclaration, des faux pas qu'on se fait remettre sur le nez, mais il y a des blessures de fond, sur le fond des choses, sur nos convictions, et ça, c'est une blessure à l'âme.
Diane, je recule la cassette un peu que pour m'attarder à un point. Tu parles d'amis. Est-ce qu'on a des amis en politique?
On a des alliés, mais on développe aussi des amitiés. Mais on a des alliés, des gens avec qui il y a une convergence dans la manière de penser, la manière de travailler, et qui deviennent des gens sur lesquels on s'appuie. C'est ça, clairement, puis il y en a beaucoup, puis il y en a même entre les députés adversaires qui sont dans des partis politiques adversaires. Moi, j'ai développé des relations à l'époque, par exemple, où j'étais porte-parole en affaires municipales suite aux fusions municipales. J'étais porte-parole d'opposition officielle, c'était Jean-Marc Fournier qui était ministre des affaires municipales, qui était pris avec la résolution de tenir des référendums. On a été très complices là-dedans. Alors oui, il y a des amitiés et des alliés.
Est-ce que les blessures, les attaques font plus mal quand elles viennent de l'autre partie, des autres partis ou de son propre parti?
C'est ça, c'est notre famille. On fait de la politique ensemble. On fait la politique en gang. Et le sabotage interne du groupe auquel on appartient, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus mal, clairement.
Est-ce que les rivalités sont plus fortes dans son propre parti ou avec les autres partis?
Bien, c'est parce qu'il y a toutes sortes de concurrences au sein du parti qui veut. Par exemple, quand arrivent les moments où il y a des changements de chef, des changements de leadership, les gens veulent prendre leur place, ils veulent être mis en évidence. Oui. Alors, il y a des guerres, je dirais, de pouvoir, de positionnement à l'interne qui sont très fortes. Là. C'est pas quelque chose qu'on cherche à faire avec le parti adverse.
OK, je veux t'entendre en terminant sur l'art des excuses, parce que il y a ce député Francis Drouin, qui est un député libéral fédéral, qui est allé dire dans un comité parlementaire à Ottawa à deux experts qui avaient été convoqués par le Bloc québécois qu'ils étaient pleins de marde. Ça a beaucoup fait jaser la semaine passée. Tu as trouvé qu'il a pas mal étiré son supplice.
Oui. Mais premièrement, il n'y a pas grand monde qui le connaissait. Alors, il s'est fait connaître pour des mauvaises raisons. Deuxièmement, ça lui a pris quatre jours pour dire la chose suivante. Tout témoin qui vient devant ce comité devrait se sentir libre d'avoir une conversation dans un environnement respectueux. Je n'ai pas fait ça. S'il avait dit ça au jour 1, il serait peut-être un peu moins dans la haine. Il serait probablement un peu, mais un peu moins. Et ça m'a rappelé un incident dans les années 2000 où un ministre avait tenu des propos, disons, pas trop gracieux envers une députée.
Qui?
C'est pas important
ça
l'histoire.
Protéger l'innocent.
Oui. Et ça s'était rendu à la période de questions. Et Lucien Bouchard s'était levé, premier ministre, et il avait dit en substance, si le ministre, puis on parle du ministre de son gouvernement, est un gentleman, il devrait s'excuser. Alors, les chefs de parti, là, ne devraient pas considérer comme étant une excuse alambiquée.
OK. Et c'est quoi l'ascendant que le premier ministre, que le chef du parti peut avoir sur un de ses députés,
Députés? C'est tout.
Il peut y tordre le bras?
Tout est possible, bien sûr. Hey, Lucien Bouchard qui se lève pour gronder un ministre puis lui dire, si t'es un gentleman, tu t'excuses. Comprends-tu, mon beau Patrick, que le ministre s'est excusé?
Il s'est excusé.
Ben oui.
C'est ma prochaine question.
Voilà.
Merci, Diane.
Au plaisir.
On va se retrouver demain. C'était Diane Lemieux.
Rimouski à CFXFM 93. La référence en information.
Le fait là, que certains centres commerciaux se réinventent,
oui.
Il va peut-être falloir que les nôtres aussi se réinventent. Là.
Très bon argument.
Si on perd des joueurs à Rivière-du-Loup, comme la cage au sport, là, c'est un signal d'alarme là, solide pour
exact.
Les autres.
Ça va vraiment brasser à Toronto. Ça s'impose. J'ai pas de problème particulier avec Lou Hughes. Le seul problème, c'est que selon moi, il y a quelqu'un qui le mérite plus que lui. Sa nomination au Trophée Calder, c'est Piotr Kotchekov, gardien de but des Hurricanes de la Caroline, qui a été sensationnel en l'absence de Freddie Anderson et Antti Ranta qui n'arrêtait pas un ballon de plage. Selon moi, méritait une nomination pour le Trophée Calder, mais étant donné que c'était un Hughes, mais on a donné la nomination à Luke.
L'entreprise d'Elon Musk a embauché des gens à $65 de l'heure pour conduire une luxueuse Tesla. Avez-vous des emplois comme ça à nous offrir? Donc, appelez-nous.
Réveil Rimouski à CFXFM 93.
Réfrigération GRL vous offre ses services en installation, réparation, l'entretien de vos systèmes de réfrigération commerciale, climatiseurs et thermopompes. Réfrigération GRL vous invite à profiter de notre promotion sur les produits Mitsubishi Electric. Contactez-nous dès maintenant pour une soumission et sauvez sur l'installation de votre thermopompe. Pour tout besoin réfrigération, faites confiance à notre équipe d'expérience qui couvre le territoire de Rimouski, Matane et Rivière-du-Loup. Réfrigération GRL, 220 Avenue du Havre, Rimouski, 418-724-7711.
Des gâteaux ou de feu pour tout nettoyer. Calinex, pour tout décontaminer. On peut s'y fier.
Sur un chemin de campagne qui se perd à l'horizon dans le bleu du ciel, vous profitez du paysage. Votre nouvelle Toyota sillonne la route avec agilité et négocie les virages avec douceur. Rien ne peut vous arrêter. Ah, sauf la construction. Mais une chose est sûre, c'est que l'aventure vous appelle et que c'est l'occasion rêvée avec la vente d'étiquettes rouges présentement en cours chez Toyota. Profitez-en pour magasiner votre Tundra 2024. Visitez achetermatoyota.ca ou un concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui.
À Rimouski, c'est CFIX FM 93.
La chronique financière de Pierre-Yves McSween est une présentation de H. Grégoire Rimouski, votre spécialiste en financement automobile.
Tu veux réagir à ce reportage, cette enquête du Journal de Montréal là, qui a créé un répertoire des salariés de la fonction publique.
Oui.
Donc, on a documenté les plus hauts salaires versés à des personnes qui travaillent pour la fonction publique ou parapublique.
Oui, et Sophie Durocher aujourd'hui reprend ces données-là et parle de la culture. Et c'est certain qu'on peut casser du sucre sur le dos de la culture.
Qu'est-ce qu'elle dit?
Mais dans le fond, elle parle des hauts salariés, puis elle dit, est-ce qu'on finance, dans le fond, les hauts salariés versus les artistes? Et le problème là-dedans, puis je ne vais pas critiquer Mme Durocher directement, je trouve que l'idée de critiquer parfois le fait qu'il y a de l'argent dans une structure plutôt que dans l'objectif final est un bon point. Maintenant, enlevons le mot « art », OK? Est-ce que être PDG, sous-ministre, ou directeur, ou quoi que ce soit, être gestionnaire, dans le fond, ça a une valeur. Bon, la réponse dans le monde dans lequel on vit, c'est oui. Et donc, est-ce qu'on voudrait que les gens en culture soient moins bien payés qu'en finance, qu'en ressources humaines, qu'en développement durable, qu'en affaires publiques? Et donc, que ton ministre, ton sous-ministre, que ton directeur de conservatoire du Musée des Beaux-Arts, ou peu importe, là, soit rémunéré 150, 200, 215 000, ça me fait pas un bruit de tomber en bas de la chaise, Patrick. Mm. Ce ne sont pas des salaires qui sont disproportionnés par rapport à la responsabilité, l'expérience et ce que ça prend pour être là. Donc, moi, là-dessus, je suis pas choqué. Maintenant, on dit dans le texte, on dit, je vous rappelle que le revenu médian des artistes québécois est de 15 200 $. Bon, ça, c'est le point qui m'achoppe toujours un peu. Sachez, tout le monde, que le salaire minimum est rendu à 15 75. Ça veut dire que...
Dollar.
Ouais. Ça veut dire que si tu es à temps plein, là, tu fais 29-30 000. OK? Et donc, quand on utilise la donnée des artistes médians, là, le revenu médian des artistes à 15 200, on parle des revenus artistiques déclarés UDA des artistes. Et pour vous donner un exemple de comment ce n'est peut-être pas une mesure qui est très, disons, correcte ou honnête quand on compare des salaires avec des salaires, si un gestionnaire fait à temps plein 200 000, avec un artiste qui gagne 60 000 par année dans sa job de jour, mais qui fait effectivement 450$ pour son show de, je sais pas moi, par exemple, de production télévisuelle dans un espace de, disons, d'exposition. Ou quelqu'un que je connais qui travaille dans le milieu de la restauration, qui fait 40-45 000, mais qui est quand même en UDA, mais qui n'a pas eu de revenu UDA l'année passée. Ou encore pire, des vrais membres UDA qui font des vrais, vrais gros revenus UDA. Mais toi et moi, Patrick, on sait que la part UDA n'est pas 100% des revenus des gens. Ouais. Je te donne un bon exemple. Si tu t'en vas faire un corporatif, là, je sais pas moi, il y a une entreprise qui te paye, ben, t'es humoriste. On te paye 5 000$ pour aller faire une heure de show d'humour.
T'es pas payé en vertu des tarifs UDA.
Ben non, en fait, t'es payé 5 000$ en tant que travailleur autonome qui te demande 5 000$ pour un show d'une heure, puis tu l'as. Ben c'est la même chose pour les contrats UDA. Il y a une portion qui est UDA, mais il y a une grande portion qui est pas UDA. Et donc, le point suivant, c'est que prenez pas les statistiques UDA pour évaluer le revenu médian d'un artiste.